Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses, pour y ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr et aujourd'hui donc c'est l'épisode 190 que j'ai intitulé « Les secrets d'une communication apaisée et honnête en couple ». Donc cet épisode 190 il fait suite à l'épisode 189 où je vous ai demandé de m'envoyer des questions sur s'il y avait qu'une chose que tu pouvais faire dans ton couple en 2025 qui ferait du bien à ton couple, qu'est-ce que ce serait. Et j'ai eu plusieurs retours, on va dire, questions autour de la communication. Donc je vais faire un peu un gros épisode en couvrant des choses qui me paraissent essentielles, des choses qui me paraissent vraiment importantes et qui feront du bien à tout le monde, très probablement, ou du moins à beaucoup. J'aimerais te rappeler, donc, si on veut continuer cette série, il me faut d'autres questions. Donc, n'hésite pas à aller sur l'épisode 190 ou 189, peu importe, je regarderai les deux et poser tes questions en commentaire sur notamment Spotify, sur Google Podcast, si c'est possible, Apple Podcast, pardon, sur mon blog graindecoeur.fr. Et tu vas sur l'épisode 189 ou 190 et tu laisses ta question, ta thématique, toujours dans l'idée de si tu pouvais faire qu'une chose pour ton couple en 2025, ce serait quoi. Et voilà, donc on va faire la communication aujourd'hui. Donc si c'est ça, tu peux toujours le mettre. Je te répondrai aussi à toi, si tu viens en privé, si tu viens en public, peu importe. Mais si tu veux aborder un autre thème, s'il y a autre chose qui te paraît essentiel pour ton couple en 2025, n'hésite pas donc à poser cette question ou amener cette thématique, encore une fois, dans les commentaires de la plateforme de ton choix. Si tu veux poser une question pour l'épisode 200 et que je prenne le temps à répondre à une question en particulier lors de l'épisode 200, donc dans 2 mois et demi à peu près, tu peux m'écrire à question@graine-du-6-cœur.fr. Donc question@graine-de-cœur.fr. Et ça, j'y répondrai un peu plus tard dans un épisode 200. Si j'ai beaucoup de questions avant, je ferai peut-être un épisode spécial aussi pour commencer à répondre aux questions. Donc voilà, on va se lancer dans le thème d'aujourd'hui, la communication, les secrets d'une communication apaisée et honnête. Si tu es un habitué du podcast, peut-être que c'est pas entièrement des secrets, que c'est plus des piqûres de rappel et voilà. Et puis ce sera une bonne occasion de voir si ces choses-là, elles sont... S'il y avait une petite mouche sur un mur quand tu discutais, quand tu étais avec ton partenaire, ta partenaire, etc., est-ce que cette mouche verrait que ces choses-là sont appliquées dans ta relation, par toi, par ton ou ta partenaire? Est-ce que c'est des choses qui font partie du quotidien ou dès qu'il y a besoin? Et si ce n'est pas le cas, il va falloir mettre en pratique. Hein. C'est pas tout de comprendre les choses, c'est de les mettre en pratique qui est intéressant. Et si tu es nouveau, ça fait pas longtemps que tu as découvert le podcast, c'est peut-être des choses que tu n'avais pas entendues avant, que ce soit ici ou ailleurs. Et donc, j'espère que ce sera des beaux secrets pour toi qui te seront utiles. Et comme toujours, hein, l'invitation, c'est, bien sûr, il faut comprendre, entre guillemets, la théorie. Et bien, après, il faut aller vers la mise en pratique, il faut l'appliquer dans ton couple. Car c'est là que la magie, elle va s'opérer. C'est si ces choses-là de communication qu'on va voir ensemble aujourd'hui, elles sont, entre guillemets, palpables. C'est-à-dire que, comme je te disais, s'il y a une petite mouche qui était sur le mur ou sur la vitre dans la pièce quand tu es avec ton ou ta partenaire, que ce soit clairement visible, quoi, qu'il y ait clairement ces choses-là qui se passent, entre guillemets, dès qu'on communique, dès qu'on parle, que ce soit pour des petites choses, que ce soit des conversations plus ou moins sérieuses, que ce soit dans l'intimité, peu importe. Donc on va avoir pas mal de choses aujourd'hui. Pour chaque élément qu'on va voir, il y a d'autres podcasts, il y a d'autres sujets où j'approfondis un peu plus. Sinon, j'en ai pour 1h30, 2h aujourd'hui de tout faire en profondeur. Donc tu peux toujours taper le nom de ce qu'on va voir. Je vais proposer plusieurs choses, 4-5 éléments aujourd'hui. Podcast en amour et voilà, et tu vas trouver un épisode plus spécialisé où tu vas sur mon blog graindecoeur.fr. soit tu tomberas sur un article sur ce sujet là, soit tu tomberas sur un podcast sur ce sujet là qui ira un poil plus en profondeur que ce que je vais faire maintenant. Mais je voulais quand même partager au moins 4 choses avec toi aujourd'hui, peut-être 5, qui me paraissent vraiment essentielles. Et on va commencer par le travail du docteur John Gottman. Je t'en parle parfois, donc c'est à la fois quelqu'un qui fait de la recherche et son épouse qui est thérapeute. Il est thérapeute aussi, mais un peu moins. Il fait plus de recherche et un peu moins de thérapie clinique, on va dire, que son épouse. Ça fait plus de 40 ans qu'il travaille avec les couples sur la thématique du couple. Et ils ont pas mal d'outils pratiques. Et un des outils qu'ils ont pratiques, c'est ce qu'ils appellent les 4 cavaliers de l'Apocalypse et leurs antidotes. Donc pourquoi ils ont appelé ça comme ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse? S'il y a ces choses-là, visible de l'extérieur, où tu te rends compte, toi, dans ton couple en termes de communication, ça va abîmer la relation. Ça peut la détruire de l'intérieur, ça peut la détruire vraiment. Il y en a un, si tu le cultives, on va dire, maladroitement, parce que tu ne sais pas faire mieux, et ben, ça risque de vraiment faire éclater ta relation. John Gottman, il prédit à plus de 90%, alors j'oublie exactement les détails de l'étude, mais c'est plus de 90%, pour ne pas dire 95%, si le couple se sépare dans les 1 ou 3 ans, je crois. Donc, il passe un entretien avec les personnes dans son laboratoire. Les gens viennent, ils sont à New York, et ils leur font faire, ils leur font échanger, discuter sur certains sujets, etc. Ils analysent comment les gens communiquent, et notamment avec ces quatre cavaliers de l'Apocalypse, ils arrivent à prédire à plus de 90% si le couple est sur la séparation, en fait, et sur la fin de la relation. Et en général, quand ils suivent ces couples-là et qu'ils leur redemandent quelques années après, ces couples-là en sont séparés. Pour ceux qui avaient ces quatre cavaliers, à un certain degré d'intensité, c'est pas dès que tu les as, ton couple il est foutu, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Il y a des choses qui sont ajustables. D'ailleurs, ils viennent avec leurs antidotes, donc je vais t'expliquer quels sont les problèmes, entre guillemets, et quelles sont les solutions, en d'autres mots. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est les problèmes, les antidotes, c'est les solutions. Donc, c'est pas du tout, faut pas du tout s'affoler s'il y a même le pire de ces cavaliers dans ton couple, mais ça veut dire qu'il va falloir corriger le tir, ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose. On en est parti. Alors, donc, premier cavalier, donc c'est la critique. La critique, c'est par exemple, tu ne fais jamais attention à moi. Donc là, on est dans la critique. Donc, l'antidote de la critique, ça va être exprimer ses besoins. Ça peut être j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, par exemple. Donc, plutôt on passe on va parler un peu de la CNV plus tard, de la communication non violente, mais c'est éviter le tu et le reproche, notamment, ou la critique. Le tu qui tue, comme on dit, hein, si c'est tu, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, tu ne fais pas attention à moi, etc. Tu es dans le reproche à l'autre, tu es dans la critique de l'autre, plutôt d'exprimer ce qui est là pour toi, donc ton besoin à toi. Donc j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, j'ai besoin que quand je rentre du travail, qu'on passe un peu de temps ensemble, etc. Donc là, c'est à toi, si tu sens que tu critiques ton partenaire, comment tu peux le formuler? Et quand on parlera de la CNV un peu en troisième point aujourd'hui de l'émission, j'irai un peu plus en détail comment formuler ces choses-là. Comment toi, tu vas pouvoir formuler les choses pour ne pas critiquer ton partenaire? Et si tu te sens critiqué, comment tu peux accompagner ton partenaire pour dire, attends, là, moi, je vois ça comme une attaque, comme une critique. C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire autrement, en fait? Comment on peut faire autrement pour mieux communiquer, pour que ce ne soit pas une attaque? Parce que sinon, moi, bien sûr, je vais être sur la défensive, je vais être dans la contre-attaque, et c'est là où ça escalade, et c'est là où les gens qui critiquent, contre-attaquent, critiquent, contre-attaquent, critiquent, contre-attaquent, et ben, au bout d'une demi-heure, ils s'engueulent, ils se crient dessus, et c'est là où c'est pas du tout bon pour la relation, par exemple. C'est des choses qui peuvent amener à une escalade de la tension, de la situation que tu vis, et qui sont négatives pour ton couple. Le deuxième et le plus dangereux, c'est le mépris. Le mépris, Gottman, bon, bien sûr, il y a le sarcasme, il y a la moquerie. Ils disent aussi, les Gottman, que ça peut être aussi subtil que rouler les yeux vers le ciel. Alors, c'est lever les yeux au ciel en français, je te l'ai traduit un peu littéralement, mais c'est roll up the eyes. Ils appellent ça vraiment rouler les yeux. Donc, nous, c'est lever les yeux au ciel. Ça peut être du mépris. En fait, donc, il y a une partie de toi, que tu le verbalises ou pas, qui méprise ton partenaire pour ce qu'il est en train de dire, pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'elle est en train de dire, etc. Et le mépris, c'est le tueur de couple. Si tu as trop de mépris trop souvent dans ta relation, tu vas vraiment abîmer ta relation, la confiance, l'engagement, par exemple, de la relation, les deux piliers, toujours d'après le travail des Gottman, confiance, engagement. Donc tu vas vraiment aller abîmer ta relation avec le mépris rapidement. Et après, bien sûr, c'est constructif, bien sûr, enfin, tu peux soigner, entre guillemets, ces blessures-là, tu peux soigner ces choses-là, tu peux reconstruire de la confiance, tu peux reconstruire de l'engagement, mais il va falloir apprendre à communiquer autrement. Et le mépris, c'est pas si simple que ça, dans le sens où ça va être vraiment de développer cette culture de l'appréciation et du respect que tu as pour l'autre. Donc c'est l'inverse, quand tu méprises, tu juges négativement, là c'est apprendre à voir ce qui est positif, apprendre à voir ce que tu apprécies, apprendre à respecter l'autre. Et ça n'empêche pas que tu peux ne pas être d'accord, ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui peuvent t'irriter, etc. Mais tu vas arrêter de prendre un ton condescendant, un ton jugeant, un ton méchant pour te sentir au-dessus de l'autre, en fait. Souvent, dans le mépris, tu te sens au-dessus de l'autre. L'autre, il est moins bien que toi, il ne fait pas les choses comme il faut, etc. Ça peut être un peu ce côté maternel ou paternel qu'on a des fois dans les relations qui se traduit comme ça. Donc, c'est te détacher de tout ça, faire un travail pour te détacher de ces attitudes-là et à la place te dire, OK, bien sûr que je vais apprendre à communiquer. Notamment ce qu'on va voir autour de la CNV plus tard, de la communication non violente, hein, apprendre à mieux communiquer mes besoins, mes demandes, ce que je ressens, ce que je vis, etc., sans être dans la critique, sans être dans le mépris. Donc remplacer tout ça par des mots valorisants et de la gratitude, mais ça va demander vraiment un chemin, et c'est là où probablement le mépris, c'est celui qui demande d'être accompagné par un thérapeute, que ce soit quelqu'un qui soit formé pour faire de la thérapie Gottman ou autre, te faire accompagner par un psychologue, quelqu'un qui va vraiment être là, qui est spécialisé pour les couples et qui va savoir, entre guillemets, vous aider à recréer cette culture de l'appréciation, cette culture du respect dans la relation. Et vous, voilà, ça se fait hein, seul, mais c'est compliqué, c'est pas facile à naviguer. Il faut vraiment avoir envie que les deux le fassent, en fait. Il faut avoir de l'élan et de l'envie des deux côtés. Ensuite, le troisième cavalier de l'Apocalypse, c'est être sur la défensive. Des fois, c'est la contre-attaque, ça dépend un peu comment tu le traduis. Donc là, la défensive, ça pourrait être « c'est pas ma faute », par exemple. Mais si tu voulais aller, plutôt si tu voulais être constructif, hein, plutôt dire que c'est pas ma faute, et de, entre guillemets, donc t'es sur la défensive et tu renvoies la responsabilité à l'autre en disant ben voilà, c'est pas ma faute, démerde-toi. Ça peut être ok, je comprends que tu ressentes ça, ça peut ne pas être ma faute, mais du coup, comment on va pouvoir avancer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette situation? Ok, tu ressens cette émotion, y a ce problème-là dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, dans le couple, financièrement, avec les enfants, etc., peu importe. Plutôt d'être sur la défensive et dire ben, « j'ai pas de responsabilité là-dedans, c'est pas ma faute », dire « ok, on va partager la responsabilité, on va prendre nos responsabilités ensemble de ce problème-là, parce que si ça touche le couple, un des partenaires du couple, ça va forcément impacter le couple. Donc il y a une responsabilité qui peut se partager ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Essayer de travailler ensemble, essayer de créer l'équipe. Ça, c'était le troisième cavalier de l'Apocalypse. Et le quatrième, ce qui, eux, appellent ça le stonewalling en anglais. Donc, ça peut être en sentiment, ça va être sur la défensive, mais ça va être plus que ça. Ça va être souvent les gens qui sont dans le stonewalling, qui sont dans cette espèce de mur de pierre. C'est des gens qui sont un peu débordés émotionnellement, etc. Et du coup, il y a vraiment ce « je me renferme et je ne suis plus en dialogue ». Il y a vraiment cette fuite. On est dans le silence, on ne répond pas. Peut-être que notre partenaire, il nous pose une question, on ne répond pas. Et puis, il nous repose la question, on ne répond pas. Soit parce qu'on ne peut pas psychologiquement, soit parce qu'on ne peut pas émotionnellement. Il y a un truc qui fait que, soit c'est notre par défaut, on fonctionne comme ça. Quand il y a quelque chose qui est confrontant, qui est compliqué, qui est gênant, on se renferme et un peu, on ferme un peu les yeux. C'est comme les enfants. Hein. Si on ne me voit pas, ça n'existe pas, entre guillemets. Moi, je sais que ça m'arrive d'aller vers le stonewalling. Des fois, dans ma vie, c'est un endroit où je vais assez facilement. Et c'est des moments où faut que les choses, notamment pour moi, elles ralentissent pour que je reste dans... c'est pas vraiment l'antidote que les Gottman y conseillent, mais moi, je me rends compte, et tu verras ce qui est juste pour toi ou pas, mais c'est si ma compagne, elle ralentit, si ma compagne, elle prend le temps, si on est plus lent, on parle plus doucement, etc., je peux rester dans... Parce que j'ai besoin de temps pour digérer les choses, en fait, dans ces moments-là. Quand je suis dans le stonewalling, j'ai vraiment besoin de temps pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, pour observer, pour avoir un moment d'introspection. Donc, eux, ce qu'ils conseillent, c'est l'auto-apaisement. Donc c'est aller vers faire une pause, prendre une douche, méditer, faire une marche, trouver un truc qui vraiment te fait du bien, prendre une pause dans la conversation parce que t'es dans l'incapacité de communiquer. Quand t'es dans stonewalling, t'es dans l'incapacité de communiquer, très probablement. Et du coup, ça va être de prendre une pause et de revenir à la conversation plus tard, pour reprendre la conversation plus tard, et trouver quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être de changer les idées, ça peut être vraiment quelque chose... c'est ok de changer les idées dans ces cas-là. T'es pas obligé de... Moi, des fois, je sais que ça dépend vraiment. Des fois, ça me fait du bien. Je vais jouer un quart d'heure au jeu vidéo, je vais prendre une douche, je fais un truc, je fais quelque chose d'autre. Des fois, j'ai juste besoin de temps au calme pour « process », entre guillemets, quoi. Vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer. C'est quelles émotions qui sont là. Qu'est-ce qui se passe intellectuellement. C'est quoi qui me challenge. C'est quoi qui me fait peur. Qu'est-ce qui se joue pour moi. Et après, une fois que tout ça, 3 minutes, 5 minutes, un quart d'heure plus tard, une fois que tout ça, c'est bon, pas de problème, je retourne dans la conversation facilement. Donc là, c'est trouver quelque chose qui... Voilà, qui va te permettre de retrouver le chemin de la conversation, de la connexion dans la communication avec ton ou ta partenaire. Donc les quatre cavaliers, critique avec antidote, expression des besoins, mépris avec comme antidote, culture d'appréciation, culture de respect, culture de la gratitude, attitude défensive avec comme antidote une responsabilité partagée, donc faire l'équipe, travailler ensemble, et le stonewalling, donc vraiment ce renfermant, j'arrête de parler, j'arrête de communiquer, je suis vraiment renfermé sur moi, donc ce mur de pierre, entre guillemets, qui avec un antidote qui est plutôt vers l'auto-apaisement, faire une pause, prendre soin de soi, prendre soin de ce qui est là pour soi, et ce qui fait qu'on est un peu dépassé, et retourner vers la conversation plus tard. C'est pas l'auto-apaisement, le prendre du temps pour soi, c'est pas... Ça ne doit pas être on n'en reparle jamais, parce que sinon, tu as fui la conversation et ça n'avance pas. Et là, tu veux, si tu veux que ça bien communiquer dans ton couple, sûrement si tu écoutes ce podcast, il va falloir que ça avance, il va falloir en parler, il va falloir comprendre, il va falloir prendre une décision, il va falloir entendre l'autre, il va falloir être entendu soi, etc. Donc ça va te demander de la communication. Donc c'est pour retourner vers la communication derrière. Quoi que tu fasses, les antidotes, ils t'aident à retourner dans la communication, dans une communication qui est saine pour ton couple. Donc ça, c'est le premier secret, entre guillemets, des couples qui communiquent bien que je voulais te partager, la première clé. Le deuxième secret, la deuxième clé, c'est le mirroring. Donc ça pourrait être l'art de répéter ce que dit l'autre, de refléter ce que dit l'autre. Il y a plusieurs niveaux de mirroring. Quand tu es débutant, que c'est la première fois que tu le fais, si tu répètes avec les mots de l'autre, l'autre il te dit bah ok, j'étais au travail, il y avait mon manager, il s'est passé ça, c'était stressant. Ok, si j'ai bien compris, tu étais au travail aujourd'hui et ce qui s'est passé avec ton manager, c'était stressant. Moi, ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, ce qui était stressant, c'était vous êtes pris la tête, entre guillemets, sur la prochaine réunion et sur la présentation qu'il fallait faire. Ah non, non, c'est pas du tout ça, c'est par rapport à tel objectif. La présentation, ça me stresse, mais c'est pas grand chose. Je t'en avais parlé, mais c'est vraiment par rapport aux objectifs trimestriels, par exemple. Et donc, il y en a un ou une qui va partager ce qu'il vit, ce qui se passe dans sa vie, etc. Et l'autre va répéter avec le premier niveau, c'est avec ses mots, avec les mots que l'autre a utilisés. On ne fait pas le perroquet, on n'est pas là, on n'est pas dans la moquerie, on n'est pas dans etc. On est vraiment dans le ok. Moi, je vais chercher à te comprendre et je vais faire cet effort de chercher à se comprendre, pas jusqu'à ce que moi je pense que je t'ai compris, jusqu'à ce que toi tu te sentes compris ou comprise. C'est celui qui partage entre guillemets, c'est celui qui doit être compris, qui valide à ce moment-là, qui dit ok. Quand tu as répété avec ces mots-là, j'ai senti que tu m'as compris. Il y a quelque chose en soi qui se passe quand l'autre il nous comprend en fait. Tant qu'on n'en est pas là, c'est dur hein, à ressentir, mais un jour tu verras qu'il y a sûrement des moments dans ta vie où tu t'es senti entendu et compris par quelqu'un. Mais c'est ça qu'on cherche. Et c'est dans la communication, aussi souvent que possible, on va chercher à comprendre l'autre. Et pas juste à l'entendre, et pas juste à « Oh oui, c'est bon, je t'ai compris », parce que on réagit avec ce qu'on... Tu vois, on voit le monde avec nos lunettes à nous, nos lunettes colorées à nous. Donc moi, je vois du bleu, je sais pas, toi, tu vois du vert, l'autre, elle voit du jaune, il y en a une qui voit du rose... Il y a peut-être des taches, des machins, des formes, des trucs, mais on n'a pas tous des lunettes transparentes auxquelles on voit la même chose. Quand toi, tu me dis quelque chose, moi, je le traduis avec mes expériences de vie, avec mes croyances, avec mes valeurs, etc. Et je peux penser te comprendre, je peux dire « je te comprends », alors qu'en fait, on ne se comprend pas du tout. Et tu verras que c'est souvent un problème dans les couples. Il y a souvent ce sentiment de « on s'est compris, on s'est mis d'accord », et en fait, le résultat est totalement différent. Parce que vous parliez, vous avez le sentiment de parler de la même chose, parce que toi, avec ces mots-là, ça voulait dire ça dans ta tête, et lui, avec ces mots-là, ça voulait dire ça dans sa tête. Les mots étaient les mêmes, sauf que ces mots, ils ne veulent pas dire la même chose. Ben là, on va chercher à vraiment entendre l'autre et à comprendre l'autre comme il est, là où il en est. Donc ça, c'est le premier niveau du mirroring, comme je te disais, répondre avec les mots de l'autre. La deuxième étape, ou quelque chose d'intermédiaire, ça pourrait être de mélanger avec des mots à soi et les mots de l'autre. Et puis après, c'est répondre avec ces mots à soi et reformuler vraiment... Et tu vois, quand tu arrives à reformuler avec tes mots à toi, et que l'autre, il se sent compris, compris, c'est tellement puissant, sur quelque chose qui est important pour eux, émotionnellement, etc., tu verras que ça peut tout changer. Il y a des gens pour qui c'est essentiel, des gens pour qui c'est pas très important, donc c'est un peu à toi de voir dans ta relation, mais il y a des gens pour qui c'est essentiel d'être compris, comprise, et d'avoir été entendu. Ça permet vraiment de valider l'expérience de l'autre, de valider l'autre comme il est, avec ce qu'il vit. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la réaction, on n'est pas dans trouver des solutions, on n'est pas dans tout ça. On est juste dans « je vais écouter ce que tu as à dire, je vais reformuler ce que tu dis du mieux que je peux, trois niveaux, avec tes mots à toi, avec ce que tu as dit exactement, avec un mélange de mes mots à toi et des mots à moi, et avec mes mots à moi. » Et il n'y en a pas un nécessairement qui est mieux que l'autre. Hein. Si ton partenaire, ça ne le gêne pas que tu utilises leurs mots à eux, il n'y a pas de souci. Hein. Tu verras, des fois, ça marche peut-être un peu mieux, entre guillemets, des fois, d'utiliser des mots à toi. C'est peut-être un peu plus puissant, on va dire, que mieux. C'est peut-être un peu plus efficace, d'une certaine manière, mais les trois niveaux fonctionnent, entre guillemets. Et là, tu permets vraiment de valider l'autre. Donc, t'imagines si déjà, tu valides l'autre plus souvent dans ta communication parce que tu as appris l'art du mirroring, l'art de refléter. Tu as transformé ta critique avec l'expression de tes besoins, tu as transformé ton mépris avec une culture d'appréciation de respect, tu as transformé ton attitude défensive avec une responsabilité partagée, tu as transformé ton stonewalling avec de l'auto-apaisement et prendre le temps et retourner dans le dialogue. Ça change déjà pas mal de choses. Hein. Donc là, le troisième élément que je voulais voir avec toi, c'est c'est le B.A.B.A. de la CNV. Moi, je ne te parle pas toujours de CNV, je te parle des fois de communication bienveillante. Je n'ai pas été formé à la CNV. J'ai lu un peu dessus, j'ai écouté des vidéos dessus, donc peut-être que je ne suis pas exactement précis sur ce qu'est la CNV, Moi, dans les mentors que j'ai suivis, dans les gens qui sont plutôt à l'international, ils parlent vachement moins de CNV, la communication non violente. C'est populaire en France, ça n'est pas toujours autant à l'étranger sous ce nom-là, sous ce format-là. Mais les bases, la manière de s'exprimer, la manière de faire est la même en fait. Donc voilà, au pire, c'est de la CNV approximative, au mieux, c'est de la CNV. Peu importe, ça marche. C'est des choses que moi, j'ai beaucoup expérimenté avec et je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai une carrière de. En dehors de mon intérêt dans le couple, j'ai une carrière dans l'assistance clientèle pour plus de 10 ans. Donc j'ai parlé au téléphone, en live chat, par email à des clients pendant une dizaine d'années. La moitié de ça, j'étais manager ou chef d'équipe. Et du coup, bah, je gérais que les problèmes les plus compliqués et les problèmes de mon équipe. Parce que c'est pas parce que j'étais pas au téléphone toute la journée que je gérais pas de l'humain et des problèmes. Hein. Quand tu es manager, tu gères de l'humain. Et ces choses-là vraiment m'ont vraiment aidé à mieux communiquer avec ma chérie, bien sûr, et avec mes collègues, avec mes clients, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. Avant que ce soit important pour moi dans le couple, c'était important professionnellement, en fait. C'est là où je faisais la différence. C'est pour ça que j'ai été promu dans ma carrière. C'est pour ça que ça a fonctionné pour moi, l'assistance clientèle. C'est que j'étais bon à créer du lien avec le client, à faire l'équipe, à résoudre le problème avec eux, etc. Toutes ces choses qu'on vient de voir, le mirroring notamment, etc. Pour vraiment leur donner le sentiment de confiance et de soutien. Je suis là pour les aider, mais on va faire ça ensemble. J'ai besoin d'eux, j'ai besoin qu'ils me donnent certaines informations, j'ai besoin qu'ils travaillent avec moi. Des fois, j'ai besoin, comme c'était dans l'informatique, qu'ils fassent certaines manipulations sur leur ordinateur, et j'ai besoin qu'ils me fassent confiance pour pouvoir faire ces manipulations qui paraissent même des fois basiques. C'est comme quand tu appelles ton opérateur téléphonique et qu'il dit « Est-ce que tu as rebooté ta box ?» Ben, il y a des cas où quand tu es au téléphone et que tu es l'assistant technique, bah, c'est ce qui marche dans 75% des cas. Donc le mec, il a beau avoir te dire qu'il a rebooté sa box et tous les clients qui t'appellent, ils disent oui, j'ai déjà rebooté ma box. Ça n'empêche pas que moi, mon expérience de l'autre côté, ça marche dans 75% des cas. Donc c'est une des premières choses que je vais demander à quelqu'un. Et du coup, si cette première chose, ça marche, alors je te prends un exemple à la con, hein, je travaillais dans le jeu vidéo, c'était un peu différent, mais ouais, des fois c'était réinstaller le jeu, des choses vraiment basiques, quoi. Il y a plein de gens qui vont dire, mais je l'ai déjà fait, ça va, écoutez, machin. Donc si tu crées un climat de confiance, si tu leur expliques pourquoi on va le faire, si tu leur expliques que c'est moins pénible que faire le reste, les manipulations d'après, etc., tu vas voir que les gens, ils vont réinstaller le jeu, ils vont redémarrer leur box assez facilement. Si tu leur demandes de but en blanc, oui, bonjour madame, ah ok, c'est ça, bah, redémarrer votre box, tu vois la réaction que tu as et la résistance que tu as. Donc l'art de communiquer, des fois, c'est l'art d'enlever les résistances aussi. Et dans le couple, c'est très important d'enlever les résistances, d'enlever les adhérences, les endroits où ça accroche, et trouver de la fluidité dans sa manière de communiquer. Et ça, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines manières de t'exprimer qui vont enlever ces adhérences, qui vont enlever ces frictions, qui vont créer du dialogue. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça va t'aider. Et ce qu'on va voir là, ça va encore t'aider un peu plus. Donc pour revenir un peu fermer cette parenthèse pro qui j'espère, te permet de voir, de faire des parallèles en dehors du couple et voir que c'est intéressant aussi de mieux communiquer en dehors du couple, bien sûr. On va dire qu'il y a trois, on va mettre quatre étapes en fait dans cette base de communication non violente, de communication, d'habitude je parle plutôt de communication bienveillante. C'est déjà l'observation et ne pas juger. Tu vois, si on parlait du tout à l'heure, si on revenait sur cette histoire de on passe pas assez de temps ensemble, tu penses jamais à moi, bah peut-être qu'une observation change d'humeur, c'est j'ai remarqué que nous avons eu peu de moments à nous ces deux dernières semaines. On n'est pas dans le tu penses pas à moi, tu prends pas notre relation au sérieux, tu t'en fous de moi. On n'est pas dans le tu qui tue, on n'est pas dans le reproche, dans la critique, on est ok. Constat, ces 15 derniers jours, à mon goût quand même, hein, d'après mon, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Et tu peux demander à l'autre qu'est-ce que t'en penses, quoi. Et toi, pour toi, c'est comment ces derniers 15 jours, ce dernier mois, on s'est moins vu. Ah ouais, bah moi aussi, ah bah non, moi j'ai trouvé qu'on s'était comme avant, etc. Donc là, c'est toi, tu partages sans juger, tu fais ton observation. Donc j'ai remarqué que nous passons peu de temps ensemble ces 15 derniers jours. Et là, tu vas ensuite chercher à exprimer un sentiment, ce que toi, ça te fait ressentir. Donc tu juges, enfin, tu ne juges pas justement, tu observes la situation. Après, tu exprimes ton sentiment, donc ça me rend triste, je me sens plus ou moins seul, je me sens un peu isolé, ça me manque. Vraiment, ces moments-là, ils me faisaient du bien, je me sentais connecté. Là, du coup, j'ai la connexion, elle est un peu. Elle a soif, elle a faim, il manque quelque chose, etc. Donc, deuxième étape, exprimer ton sentiment. Tu vois qu'on n'est pas dans le tu, dans le reproche non plus. On dit, ok, j'ai remarqué que, j'ai vu que, je pense que, etc. Je me sens comme si, je me sens triste, je me sens seul, etc. Ensuite, on va exprimer un besoin, donc troisième étape. Donc, j'ai besoin de plus de connexion avec toi, j'ai besoin de plus de temps avec toi. Donc là, on va parler de son besoin. Peut-être qu'on n'a pas encore fait ça, on n'a pas demandé Encore, hein, c'est la quatrième étape, mais on a déjà exprimé le besoin. Donc on a fait l'observation de la situation sans jugement. On a parlé de son sentiment, on a parlé d'un besoin. J'ai besoin de plus de connexion avec toi. Et du coup, la demande, la dernière étape, la quatrième étape, ce serait, qui est censée être claire et concrète, c'est est-ce qu'on pourrait planifier un moment ensemble cette semaine? Est-ce que ce soir, on peut passer la soirée ensemble? Est-ce que tu as du temps pour, même si on regarde un film et qu'on juste bras dans les bras, ça me va? Ou il y a cette conversation qu'on avait dit qu'on aurait, tu te souviens, on avait ce truc qu'on devait revoir, on voulait regarder les albums de photos des vacances, on n'a pas eu le temps. Moi, je me sens vraiment connecté à toi quand on fait ça parce que bah, ça me rappelle tous les bons moments qu'on a passés ensemble et tous les trucs qu'on a partagés, etc., etc. Donc, quatre étapes. Observation sans jugement, parler de ton sentiment, ce que tu ressens, tristesse, plutôt des émotions, on va dire. Ça peut être ton ressenti, hein. C'est pas deux choses pareilles, émotion. Ensuite, ton besoin. Donc là, comme tu te sentais triste dans cet exemple-là, ou je me sens triste dans cet exemple-là, bah, le besoin, c'est plus de connexion, par exemple. Ça pourrait être de marcher, ça pourrait être, tu pourrais l'exprimer autrement que de la connexion pour toi, se sentir triste, ce sentiment de on passe pas de temps ensemble, peut-être que c'est, bah, il faut qu'on aille au restaurant, etc. Moi, je préfère quand c'est un besoin un peu plus profond qu'aller au restaurant, parce qu'aller au restaurant, tu peux le combler que d'une manière, c'est aller au restaurant, alors qu'un besoin de connexion, tu peux le combler de mille manières différemment. Et peut-être que c'est marcher, peut-être que c'est faire un câlin, peut-être que c'est se prendre dans les bras, peut-être que c'est aller au restaurant, etc. Donc, je trouve que des besoins, on va dire, plus fondamentaux, je ne vais pas ouvrir une parenthèse là-dessus, j'en parle parfois, hein, des six besoins humains, aller vers des besoins essentiels, fondamentaux. Tu peux taper graines de cœur, six besoins humains. Tu vas tomber sur un podcast et sur un article pour approfondir un peu ça, te rendre compte qu'il y a six choses qui motivent un peu tout ce qu'on fait. C'est plus intéressant parce que ces besoins fondamentaux, tu vas pouvoir les nourrir de mille manières différentes, alors qu'aller au resto, comme je te disais, tu peux aller qu'au resto. Sinon, tu vas être frustré. Donc, c'est bien d'apprendre à exprimer ce besoin de manière un peu plus profonde, on va dire. Et quatrième étape, faire ta demande. Est-ce qu'on peut passer du temps ensemble, etc. Donc, situation sans jugement, sentiment, besoin, demande. Et comme ça, là, tu communiques d'une manière... Tu vois, c'est quand même vachement mieux que le « Ah, tu t'en fous de moi, tu penses pas à moi. De toute façon, tu fais jamais rien pour la relation. Sans expliquer ce que tu ressens, sans expliquer ton besoin, sans faire une demande à l'autre. » Si tu fais pas de demande à l'autre, tu lui donnes pas la chance d'ajuster la situation. En fait, c'est vraiment important. Moi, je trouve qu'il y a... Quand je pense à la communication, j'avais pas cru t'en parler, je t'en parlais quand même, mais le sentiment d'exprimer les besoins non-dits. Il y a pas mal de non-dits dans la relation. Il y a pas mal de besoins, de choses qu'on aimerait, et on pense que l'autre le sait, on pense que l'autre doit le deviner. Non, ça marche pas comme ça. Moi, si j'ai un besoin, une attente envers ma partenaire, envers ma chérie, et que je lui communique pas, je me vois comme injuste envers elle, parce que je lui donne pas la chance de satisfaire ce besoin, cette attente. C'est-à-dire que je suis dans une sorte de manipulation, je joue un jeu à la con pour moi, et je vais forcément, très probablement être déçu. Forcément non, parce que ça arrive que des fois, par chance, elle sait que dans ce cas-là, etc. Mais c'est assez malsain, enfin, comme mécanisme de couple. Si toi, tu attends tout le temps que l'autre il devine tes besoins et que lui fait pareil et qu'elle fait pareil, vous allez voir que c'est malsain. C'est vachement plus sain de dire les choses, de dire bah écoute, j'ai un besoin de connexion, je me sens triste. Tu peux faire dans l'autre sens, hein, j'ai un besoin de connexion en ce moment, je me rends compte, ça, c'est vrai que je me sens un peu triste. Je crois que c'est parce qu'on passe pas beaucoup de temps ensemble et ça me peine. Et du coup, est-ce qu'on peut prévoir un peu de temps ensemble bientôt? Tu vois, tu peux me faire ta demande d'abord. Ça te dirait qu'on passe un peu de temps ensemble? Parce que là, en déroulant un peu le fil, je me rends compte que je me sens triste. Et du coup, ça me fait penser, je crois que c'est mon besoin de connexion. Là, c'est un des besoins, des six besoins fondamentaux, en plus, c'est un des besoins profonds. Donc, ah ouais, c'est mon besoin de connexion là, qui en manque, a besoin d'être nourri. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se faire un truc, etc. Parce que, pareil, en déroulant un peu toujours ce fil, je me rends compte que ça fait 2-3 mois, là, ouais, on a moins fait d'efforts pour être ensemble. La vie nous a un peu pris, le travail, les enfants, les hobbies, etc. Et du coup, on est un peu distrait du couple et il faut remettre un peu de conscience sur le être en couple. Tu vois, donc tu n'es pas obligé de suivre cet ordre de observation sans jugement, sentiment, besoin, demande. Tu peux faire demande, besoin, sentiment, observation, sentiment, besoin, demande, observation. Tu peux jouer avec ça. Avec ces quatre étapes-là, tu peux jouer et voir ce qui vient naturellement. Et après, si tu vois que la première, c'est la demande, à dire, bah, donne du contexte à ton chéri. Si tu demandes de passer du temps ensemble, moi, c'est vachement plus simple pour moi et c'était pareil avec mes clients. Mon client, il me dit, j'ai besoin d'un remboursement, machin. Bon, bah, la procédure, quand tu es en assistance clientèle, c'est ce qu'il le demande. Avant telle date, est-ce qu'il a utilisé le produit, machin, et puis tu dis oui, non. Si tu as quelqu'un qui arrive, qui t'explique sa situation, qui te dit, bah, écoutez, moi j'ai acheté, je comprends que ça fait un peu plus longtemps, mais en fait, j'ai parti en voyage pro, j'ai pas touché à l'ordinateur pendant 15 jours, du coup, je sais qu'il y a un délai de 72 heures pour demander les remboursements, mais là, j'étais à l'étranger, en déplacement professionnel, j'ai même pas pu installer votre jeu, etc. Et la personne, elle déroule son histoire, peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse, hein. Des fois, en assistance clientèle, tu sais jamais, dans le couple, j'espère que l'histoire de ton chéri est vraie ou de ta chérie est vraie, mais des fois, tu doutes un peu, mais quand tu as l'histoire de la personne, c'est vachement plus facile d'aller voir ton manager et dire, bah écoute, là, il y a la procédure, il y a les règles, il y a ce mec-là, cette nana-là, il rentre pas dans les clous, mais il y a cette circonstance atténuante, il y a cette situation, j'ai envie de l'aider, est-ce que tu peux me valider une exception? Oui, je te valide. Et moi, j'ai eu plein d'exceptions en travaillant avec les clients parce que je cherchais à comprendre leur histoire, leurs besoins, leurs sentiments, l'observation de la situation pour eux. Et après, parce que moi, ce que je recevais par téléphone, dans le ticket, dans le live chat, c'était la demande, c'est je veux un remboursement. Mais il y a tout le reste avant. Et une fois que j'ai tout le reste, j'ai vachement plus d'empathie si je ramène ça au couple envers ma chérie. Si elle me demande est-ce qu'on peut passer du temps ce soir et que je regarde mon agenda et je suis là, bah non, je suis en retard, machin et tout, je suis là, non, ce soir, désolé, je peux pas. Si elle me dit, écoute, je me sens un peu seul en ce moment, je me sens triste, ça fait 15 jours qu'on s'est moins vu et c'est un peu dur pour moi. Ok, ma chérie, c'est très différent. C'est très différent si tu vis ça et que tu me demandes ça, que si juste tu me demandes si on peut passer du temps ensemble. Et moi, je pense qu'à moi dans ce cas-là presque. Tu vois, je regarde mon agenda, je suis là, bon, ok, je peux pas, mes envies et tout. Donc, tu verras que ça peut vraiment amener de l'empathie, de la communication fluide, de la douceur dans la relation aussi, de communiquer comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle communication non violente. Moi, je préfère bienveillante, plutôt dire ce que c'est pas. Je préfère dire ce que c'est. J'espère que ça te servira. Et moi, je trouve que ça amène beaucoup, beaucoup de paix et de douceur dans les relations, dans le couple. Je vais avancer. Ça fait déjà une demi-heure. Donc, il y a encore deux petites choses que je voulais voir avec toi. Il y a cette idée de créer des espaces propices à la communication. Donc, j'ai toujours un peu du mal à le nommer, hein, cette espèce d'outil que je sais pas, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui en parlent. C'est pas nécessairement quelque chose que je me souviens avoir lu. C'est quelque chose que j'ai trouvé, entre guillemets, d'expérience et que je trouve très pratique. Donc, j'ai pas nécessairement un mot spécial pour le nommer. Mais c'est quelque chose qui aussi dans la communication me paraît vraiment essentiel. Et quand la communication va mal, c'est une des premières choses que je regarde si j'ai bien fait, si on a bien fait avec ma chérie. Des fois, j'appelle ça trouver le bon moment. C'est trouver un moment où il y a trois facteurs, entre guillemets, qu'il faut qu'ils soient réunis c'est plus pour avoir une conversation, quoi. Tu as besoin de parler de quelque chose, pas nécessairement de quelque chose de grave et pas dire, bah, faut qu'on ait la conversation sur notre relation, sur l'argent, j'en sais rien, non. C'est peut-être j'ai des choses à déposer, j'ai des questionnements sur des projets qu'on fait, sur ma carrière, sur mon pro, sur mon perso, sur le familial, j'ai des trucs qui sont un peu sensibles, qui sont un peu délicats, qui vont demander du temps, qui vont demander du tact dans la communication, etc. Du coup, j'ai besoin d'un espace pour vraiment déposer ça. Et ça peut être pour partager une observation, comme on vient de voir, hein, remarquer qu'on passe pas beaucoup de temps ensemble, du coup, je me sens triste, du coup, j'ai un besoin de connexion, et du coup, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble. Ça peut être juste ça. Mais s'il y a besoin, si ça s'est fait en deux phrases ou trois phrases, bon. Ce qu'on va voir là, c'est comme cette quatrième clé, ce quatrième secret, il est un peu moins important. S'il y a besoin d'un peu plus pour toi, si tu as besoin de discuter de ça, d'exprimer des choses, de parler pendant une demi-heure, là, ça va être très important d'utiliser cet outil. C'est est-ce qu'il y a du temps devant vous? Donc simplement, vraiment sur l'heure, hein, on va dire, est-ce que si tu as besoin d'avoir une conversation de 2 heures et que c'est 23h30 et que vous êtes rincé, j'ai pas réussi à j'avais voulu faire le son du beeper, tu sais, quand il y a une erreur, une mauvaise réponse dans les jeux télé, mais j'ai rien qui est sorti. Mais un peu ça, quoi. C'est un peu mauvaise réponse, quoi. Non, 23h30, quand tu as besoin d'avoir une conversation d'une heure sur un sujet délicat, pas le bon parce que t'as pas le temps. T'as pas jusqu'à 1h30 du mat, demain tu travailles à 5h pour aller bosser. Pas possible. À 6h pour aller bosser, pas possible non plus, etc. Donc il n'y a pas le temps. Et après, les deux autres facteurs, c'est est-ce qu'il y a une disponibilité, donc ce que j'appelle intellectuelle. Ou physique, ça peut être est-ce que tu es à peu près alerte, quoi? Est-ce que tu es frais? Est-ce que tu es pas. Si tu es au bout de ta vie, que tu es complètement rincé de ta journée de travail et compagnie, ça va être compliqué de parler d'un truc délicat. Donc est-ce qu'il y a cette qualité-là intellectuelle? Et aussi, le deuxième aspect ou la troisième chose, c'est émotionnellement. Parce que si tu es super stressé, si tu es super triste, si tu es dans des émotions un peu extrêmes, on va dire, un peu intenses, ça va être compliqué aussi d'avoir une qualité de conversation qui est bonne. Donc il faut du temps, il faut une disponibilité intellectuelle, une disponibilité émotionnelle. Et ça, il y a des moments, tu verras que les pires conversations que tu as eues dans tes histoires d'amour ou au travail ou quoi, c'est quand ces choses-là n'étaient pas bonnes. Il n'y avait pas le temps, tu as voulu le faire alors qu'il n'y avait pas l'espace, du coup il fallait le faire plus tard ou il fallait juste dire, écoute, j'ai un truc, il faut qu'on en parle, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Moi, j'ai besoin que ce soit fait rapidement, que ce soit fait voilà, dans la semaine ou quoi. J'ai besoin qu'on parle de ça. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Est-ce qu'on peut se voir dans 1 heure après ta réunion? Etc. Et puis, vous verrez plus tard. Mais il faut du temps, il faut une disponibilité intellectuelle, émotionnelle pour que ça se passe bien, je sais pas, mais déjà pour qu'il y ait les conditions pour un bel échange soient réunies. Donc, tu vois, si tu mets ça au début, par exemple. Je vais retisser un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui avant de te parler du dernier qui est un peu transcendant de tout ce qu'on a vu. Je t'en ai un peu parlé dans la communication non violente ou bienveillante. Mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Tu sais créer des espaces propices à la communication. Il y a du temps, il y a une disponibilité émotionnelle et intellectuelle des deux. Bon, quand tu as des enfants, je sais que c'est compliqué, mais il va falloir trouver des manières de créer plus de disponibilité émotionnelle, intellectuelle et du temps pour avoir les conversations importantes. Si vous le faites quand vous êtes fatigué tout le temps, ça va être compliqué, quand vous êtes énervé, etc. Donc tu sais créer ces espaces-là. Après, bah, tu as une base de communication qui est basée sur une communication qui n'est pas violente, qui n'est non violente, qui est bienveillante. Donc observation, sentiment, besoin, demande. Donc tu as une communication qui est beaucoup plus neutre, qui est beaucoup plus fluide. Tu vas utiliser peut-être à des moments, tu vas utiliser le mirroring sur des choses importantes. Pas le faire tout le temps, dès que tu parles dès que ton partenaire dit ben, je vais manger, ah si j'ai bien compris, tu vas manger. Et puis après je vais téléphoner. Ah si j'ai bien entendu, tu vas téléphoner. Ah, d'accord. Et puis après je vais aller me brosser les dents. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas ça. C'est quand c'est des choses importantes, quand c'est des choses essentielles, quand il y a besoin d'entendre l'autre, quand il y a besoin de comprendre l'autre, quand c'est des choses qui sont à fleur de peau, quand c'est des choses qui sont sensibles, quand c'est des choses qui sont dans l'émotionnel, quand c'est des choses qui sont dans l'intime. Ok. Là, on peut utiliser cet outil-là. Sinon, ça ressemble à de la moquerie et c'est du perroquetage, je sais pas si ça se dit, mais ça peut être irritant. C'est-à-dire, donc vraiment, à utiliser ça avec parcimonie quand c'est nécessaire, hein, c'est des outils, c'est pas des dogmes, c'est pas des trucs qu'il faut faire tout le temps, chaque moment de la journée, mais c'est un outil intéressant. Donc, tu crées des espaces propices à la communication, ta communication, elle est plus agréable avec les bases qu'on a vues de CNV. Tu utilises le mirroring quand c'est important, tu as transformé ton mépris en appréciation, tu as transformé ton attitude défensive avec des responsabilités partagées, tu as transformé ton stonewalling par je prends du temps pour moi et on retourne dans la conversation, tu as transformé la critique avec bah, l'expression du besoin, c'est pour ça que je te disais quand je te parlais des quatre cavaliers de l'Apocalypse que c'était en lien avec le troisième point, donc les petites choses de CNV qu'on a vues, communication non violente, c'est parce que bah, exprimer ton besoin. Et faire une demande, bah, c'est ça quoi. Est-ce qu'on pourrait planifier un moment ensemble cette semaine, par exemple? Exprimer ton besoin. Au lieu de dire tu m'aimes pas, tu penses jamais à moi, etc. Donc tu vois, c'est vraiment, j'espère que tu commences à entrevoir à quel point ça peut transformer la qualité d'une relation quand c'est ta qualité de communication. Cerise sur le gâteau, je sais pas, challenge peut-être, communication radicale. Et à la fois radicalement honnête et à la fois bienveillante. C'est-à-dire que c'est important de se dire les choses, de pas se cacher des choses, de pas se mentir dans une relation. On va garder le côté bienveillant, parce que c'est pas, je dis souvent que c'est pas une excuse pour être un con ou être une connasse, cette manière de communiquer. Il y a des gens qui disent, oh ben moi je communique, je suis cash, je suis honnête, voilà. Ouais, mais des fois t'es un con, des fois tu manques de tact, des fois t'es pas bienveillant. Et du coup, la personne, tu vas créer, quand tu communiques comme ça, tu vas créer de la défense chez l'autre parce que, bien sûr, l'autre, il y a un monde parfait où l'autre, il prend pas ça personnellement, où l'autre, il a la capacité intellectuelle et émotionnelle de gérer quelque chose de cash. Beaucoup de gens, ils peuvent pas. Beaucoup de gens, ils n'en sont pas là. Et du coup, toi, en tant que communicant, comme je te disais quand je te reprenais mes exemples d'assistance clientèle, c'est moi qui vais être la personne qui prend les devants, entre guillemets, et qui va créer le climat de confiance, qui va créer l'équipe, qui va de tendre des perches à la personne. Et des fois, la personne, elle ne prend pas toutes les perches, mais je vais tendre plein de perches. Et s'il y a une perche qui ne marche pas, je vais essayer d'en tendre une autre différemment, etc. Pourquoi? Ok, on va résoudre ce problème ensemble. C'est toi qui as un problème, tu attends que ce soit moi qui le résolve dans une relation avec l'assistance clientèle, souvent. Les gens, ils viennent et puis ils ont essayé eux-mêmes, ça ne marche pas. Ils disent, bah, c'est à vous de maintenant, c'est à vous de jouer, entre guillemets. Ben, moi, pour jouer, entre guillemets, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin que tu fasses des manipulations. Donc, on va créer l'équipe. Je vais te faire confiance, tu vas me faire confiance, on va travailler ensemble main dans la main pour résoudre ton problème. Et après, je vais même éventuellement t'apprendre aussi à faire en sorte que ton problème, s'il revient, tu saches le gérer tout seul. T'es même pas besoin de me recontacter si tu as envie d'apprendre ça, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment cette sphère positive, entre guillemets, quoi, où c'est agréable, on travaille ensemble main dans la main, c'est bienveillant, c'est chaleureux, tu vois, c'est vraiment cette histoire de communication chaleureuse, on passe un bon moment ensemble. alors qu'on parle d'un problème, etc., du meilleur moment qu'on puisse passer ensemble, et on le résout, et on avance, et la personne, elle est super contente, elle te trouve adorable, génial, aimable, fantastique, elle te met 5 sur 5 à la note, elle te recommande, voilà, et puis ça marche pour toi, dans ta carrière, quand tu fais ça dans l'assistance clientèle. Et ça peut marcher pour toi un peu plus dans le couple. Mais il faut être honnête, il faut être radicalement honnête, et je dis radical dans le sens où c'est pour vraiment... pas laisser de place aux mensonges, aux non-dits, etc. Il y a des choses, oui, tu peux avoir un peu de jardin secret, bien sûr, il y a des choses qui peut-être que se disent pas. Je ne vais pas te parler du jardin secret aujourd'hui, j'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres épisodes, mais c'est quelque chose que je peux revisiter si ça t'intéresse. Mais pour une question de temps, je ne vais pas le faire maintenant, mais les choses qui impactent ta relation, les choses qui mettent de la distance entre toi ou ton partenaire, toi et ta partenaire, il va falloir en parler. Et du coup, communication radicalement honnête et bienveillante, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais se dire les choses qu'on a sur le cœur, les choses qu'on pense, les choses qui font peur, les belles choses aussi. C'est pour ça que l'inverse du mépris, c'est la culture de respect et de l'appréciation de l'autre, l'admiration de l'autre même. Hein. Les Gottman, ils disent fondness en anglais, donc c'est vraiment, vraiment l'admiration, quoi. C'est apprendre à cultiver l'admiration de son partenaire. J'admire ma compagne, j'admire ma chérie pour ce qu'elle est. Bien sûr, elle a ses défauts, etc. Mais je vais trouver les ressources en moi pour apprendre à l'admirer, à vraiment à l'admirer du mieux que je peux. Et j'espère qu'en contrepartie, je serai admiré aussi. Et j'ai pas de garantie de ça. Elle a pas de garantie que je l'admire si elle arrive mieux à m'admirer entre guillemets. Mais on va essayer tous les deux de s'admirer, de vraiment s'apprécier, de se respecter profondément. Et ça va permettre de vraiment, quand il y a de l'honnêteté, quand il y a de l'intimité, quand la communication elle est plus juste, tu verras que ça peut ouvrir des espaces dans la relation qui sont magiques, parce que tu vas directement influencer les piliers du couple, confiance et engagement. S'il y a une belle communication, si la communication elle est intime, si la communication elle est honnête, si tu parles de quasiment tout ce que tu peux imaginer, possible de parler avec un partenaire, une partenaire, et petit à petit peut-être t'augmentes ce quasiment tout. Alors plus de choses, il y a des choses qui te faisaient honte, il y a des choses qui te faisaient peur, des parties que toi tu cachais, bah, petit à petit tu vas te révéler, petit à petit tu vas les amener, petit à petit tu vas les partager, bah, tu vas te rendre compte que ça va créer un vrai lien en fait. Il y a vraiment un lien humain qui va se créer, quoi, qui est rare, qu'on n'a pas beaucoup dans notre société, qu'on ne l'a souvent pas avec nos familles, on ne l'a souvent pas avec nos amis, on l'a encore moins avec nos collègues de boulot. Il y a un lien vraiment rare et unique qui se fait quand la relation elle est à ce niveau-là. C'est tellement beau que ça vaut le coup. Après, c'est aussi une relation qui vaut le coup quand il y a cette qualité-là de communication. Donc j'espère que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va t'aider à aller vers cette qualité-là de communication, cette qualité-là de relation, en espérant que, voilà, que ça t'inspire, que ça te donne envie, que ça te donne des pistes qui sont, enfin, des choses qui sont actionnables, on va dire, des choses que sur lesquelles tu peux mettre en pratique, quoi. Il n'y a pas juste la théorie qu'on a vue ensemble aujourd'hui, tu peux vraiment aller et t'entraîner à cultiver cette, même s'il n'y a pas de mépris dans ta relation, cultiver l'admiration, c'est très bien, l'appréciation, le respect, c'est très bien, responsabilité, même s'il n'y a pas d'autodéfense, c'est très bien, apprendre l'auto-apaisement, même si tu ne fais pas du stonewalling, c'est très bien, exprimer tes besoins, même s'il n'y a pas de critique, avec les techniques de CNV qu'on a vues, observation, sentiment, besoin, demande, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, c'est très bien. Même s'il n'y a pas de problème à la base, c'est mieux, entre guillemets. C'est aller vers le mieux communiquer. Ces choses-là, elles vont t'aider à aller vers le mieux communiquer. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, je te remercie beaucoup de ton écoute. Je te rappelle que ça fait suite à l'épisode 189. Donc, n'hésite pas à me poser d'autres questions sur d'autres thèmes, d'autres problématiques de couple. Comme ça, je pouvais soit répondre à une question précise, s'il n'y en a qu'une, et voilà, soit répondre à plusieurs questions et faire un, entre guillemets, du 2, 3, 4, 5 en 1, en donnant plusieurs pistes. Tout le monde s'y retrouve. Tu peux soutenir le travail que je fais en partageant cet épisode, en t'abonnant. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc je te remercie de ça. Et tu peux aussi tout simplement mettre une note avec les 5 petites étoiles sur iTunes. Et il y a 2 autres petites choses que je te propose. Avec ma compagne, on propose du tantra pour couple et pas que, pour tout le monde. Donc si tu veux venir à nos événements, donc c'est en Haute-Savoie, donc c'est pour les gens qui sont plutôt Haute-Savoie 1, Suisse, côté Genève, par là, si tu es de ce côté-là, on est entre Annemasse et Annecy, entre guillemets, donc plutôt des gens qui sont dans cette région-là, donc si ça t'intéresse, tu vas sur grainesdecoeur.fr, il y a un onglet Tantra en présentiel, et tu verras ce qu'on propose, des ateliers, des journées, des fois c'est pour les couples, des fois c'est pour tout le monde, donc si tu es curieux du Tantra, si tu pratiques déjà le Tantra ailleurs et que tu veux voir ce que nous on propose, n'hésite pas, il y aura un entretien préalable au téléphone, de toute façon, avant ta venue à nos événements, donc ce sera l'occasion de poser tes questions, de faire connaissance. Et aussi, je propose des accompagnements. Donc, si jamais tu as envie de mieux communiquer, à tout hasard, je prends ça au hasard. Si jamais tu as envie de mieux communiquer, que bah, y a des quatre cavaliers de l'apocalypse un peu et que les antidotes ils sont durs à mettre en place, que ok, tu as compris les quelques bases de CNV qu'on a vues ensemble, mais c'est pas toujours évident. Et comment je parle de mes sentiments et comment j'identifie mes besoins et comment je fais ma demande et ce genre de trucs, l'accompagnement il peut vraiment t'aider à faire ça. Moi, c'est un chemin, c'est des choses que j'ai déjà fait, c'est des choses sur lesquelles j'ai lu des bouquins, je me suis formé, c'est des choses sur lesquelles j'ai pratiqué. Dans ma relation, j'ai appris à passer du j'arrive pas à le faire, je sais pas comment le faire, ah bah ok, je sais le faire dans cette situation, puis je sais le faire dans cette situation, puis je sais aussi le faire dans ma famille, puis je sais aussi le faire au boulot avec mes collègues et puis avec mes clients. Et du coup, c'est des choses que j'ai pas mal digérées, que j'ai pas mal approfondies, on va dire. Donc il y a sûrement moyen que je t'aide à aller avancer un peu plus vite, que je t'accompagne du moins, surtout à aller avancer un peu plus vite si tu as l'envie, si tu as l'élan. Donc si ça t'intéresse l'accompagnement, s'il y a un élan de ta part d'aller vers le mieux communiquer, d'une manière générale, suite à l'épisode d'aujourd'hui, tu peux aller sur grainesdecoeur.fr, tu peux regarder l'onglet accompagnement et me contacter. Voilà, en tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à bientôt. Ciao!